Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps que de par le monde 390 000 emojis soient ajoutés à des messages divers. C'est le temps que le groupe RATP réalise 37 000 euros de bénéfices. Une heure et demie, c'est le temps qu'une demi-boîte aux lettres jaunes soit mise au rebut par la poste, car on envoie de moins en moins de courriers. 90 minutes, c'était le temps qu'il fallait à 5800 personnes pour entrer dans l'un des magasins Tati lorsqu'ils existaient encore boulevard Barbès, c'est-à-dire plus de visiteurs que la tour Eiffel. Une heure et demie, c'était le temps que meurent 66 cochons en Bretagne pendant la canicule à cause de la surcharge de température et de l'agriculture intensive. Et c'était le temps d'ailleurs pour que meurent 8600 poulets à cause de la canicule. Une heure et demie, c'est le temps qu'une cabine du téléphérique C1 entre Créteil-Pointe-du-Lac et Villanova fasse 3 allers-retours. Dessous de Seine, bonjour, quelques petits... Je me souviens que, désirant nous rejoindre à Trouville-sur-Mer sur la côte Fleurie, Chantal avait suivi aveuglément le tracé imposé par le GPS de sa voiture, ne regardant aucun panneau routier, obéissant sagement à toutes les injonctions, tourner à droite dans 8 km, jusqu'à arriver à Trouville-la-Haule, en Seine-Maritime, à 100 km de nous. L'erreur initiale était dans la validation de destination sur les 3 Trouville proposées sur l'ordinateur de bord. Je me souviens que Fabrice m'avait raconté avec un sourire complice le cadeau qu'ils avaient fait à un de ses amis timides et vraisemblablement encore puceau à 24 ans, qu'il m'avait dit avec un sourire en coin. Il s'était cotisé pour son anniversaire et avait payé une fille de joie, sourire demi-mondain, à qui ils avaient donné un scénario à respecter, sonner chez lui, lui livrer je ne sais quelle histoire abracadabrante qu'il m'a racontée et que j'ai oubliée, sourire s'étirant de plus en plus, et devant finir en porte-jartel dans le lit du dit copain, sourire coquin. Mais dans son récit, aucune pensée pour la fille qui vendait son corps. Sourire absent, gros connard. Je me souviens d'Ambroise, je me souviens de François-Xavier, de Philippe Duroule. Pas pratique si on veut baptiser son enfant du nom d'un saint du métro parisien. Placide, Ouan, Michel Notre-Dame, Marcel, Fargeau, ah non pas celui-là, Jacques, Denis Carrefour-Pléiel, Germain Després, Sébastien Froissart ou Augustin. Je me souviens que Thierry Poret préenregistrait ses émissions Blues en liberté sur cassette, les apportait au studio pour diffusion et les laissait pour qu'elles puissent servir de bande sans fin. Je me souviens d'une fête du groupe Louise Michel, organisée Square des Abbesses, enfin Square Jehan Rictus, à l'époque où il était encore à l'état de friche. Je me souviens que chaque fois qu'il avait un gros coup de blues, ça arrivait, Lucas appelait Émilie et discutait plus d'une heure avec elle, en particulier quand il se prenait un râteau avec une fille. Ah oui, ça date de dire râteau, maintenant dire prendre un vent. C'était à la bonne copine d'enfance de le réconforter pendant une heure. C'est comme ça que petit à petit, sans s'en rendre compte, Lucas est tombé amoureux d'Émilie. Un samedi midi, il a pris son courage à deux mains, lui a avoué que la camaraderie des jeunes années avait fait place à un tout autre sentiment. À midi 8, elle lui expliqua en mots comptés et mesurés que, hélas pour lui, ce n'était pas réciproque. Eh bien, qui croyez-vous qu'il appela alors, dans l'après-midi, du fond de sa déprime ? Je me souviens de « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle ». Je ne me souviens plus dans quel ordre ont été classées au fil de ma vie les différentes envies. L'envie de pisser qui part du bas-ventre et rayonne jusqu'aux poumons et aux chevilles. Le besoin de se couper les ongles absurdement chaque fois qu'un regard se pose sur vos propres cuticules. L'envie de soulever un bébé quand il te regarde. La crampe qui te bloque le bassin et dont tu te demandes si elle sera efficace sur tes sphincters. La soif qui bloque la gorge, la langue et le cerveau. L'envie de caresser, toucher, renifler, lécher une chair entreaperçue entre deux plis de vêtements. Ou la faim qui tourne dans ton ventre comme un hamster fou dans sa cage. Je me souviens qu'à la mort de Jules, sa collection de fossiles et de pierres taillées de l'Aquelléen, il en était fier, étant lui-même natif de Saint-Acheul, avait fini près de la maison de campagne de ses petits-enfants qui avaient trouvé que tous ces vieux cailloux étaient bien pratiques pour remblayer le chemin vers le garage qu'il venait de faire construire. Je me souviens que Kevin se vantait d'avoir inventé une série de questions infaillibles pour gagner au qui est-ce en un nombre ridiculement faible de coups. Et quand il perdait, ce qui arrivait 3 fois sur 4, il disait que c'était parce qu'on avait mal choisi notre personnage. Ah, je me souviens que, comme je me suis envoyé, mais je me souviens par Gmail pour les imprimer, Google aura le droit de les utiliser pour entraîner ses IA, comme tout ce que j'ai pu laisser d'ailleurs, comme courrier quelque part sur ses serveurs.
« 223 épouses parfaites, 316 maris dévoués. Et quant aux bonnes mères, aux excellents pères, on ne peut même pas les compter. 140 députés honnêtes, 213 excellents voisins. Dans les cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres, ce sont tous de petits saints. » Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants, les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les vulnérables à l'heure, les huissiers et les belles-mères et les percepteurs, les grippes sous notoires et les créanciers, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. 75 plus que centenaires qui n'ont jamais ni bu ni fumé. 40 hommes d'affaires que leurs actionnaires ont tenu à remercier. 6 douzaines de chastes comédiennes qui vivaient pour l'art et la beauté. Dans les cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres, ils seront tous canonisés. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, les macros et les mégères, tous les médisants, ceux qu'on croise très vite dans les escaliers, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains gagas, qui vous parlent des heures entières de leur estomac, les envieux chroniques et les constipés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les gens des guichets, qui se servent d'un formulaire pour vous torturer, tyran minuscule, petit chef raté, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants, les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté.
Et évidemment, vous avez reconnu ce piano au délirant, Marie-Paul Bell qui vient de nous quitter, une chanson qui date de 1995, et il me semble d'ailleurs que l'une des dernières émissions de radio de Marie-Paul Bell, c'est chez l'ami Jean-Daniel Belfond sur Fréquence Protestante. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, eh bien aujourd'hui, si je regarde dans le studio, je reconnais Evelyne, je reconnais Anne, je devine une invitée, donc ça va être théâtre, ici les studios, à vous les studios.
Alors, bonjour à tous, oui, à toutes. Ah oui, il faut quand même... Bon, moi, je serai partisante, je le dis une fois pour toutes, que le masculin et le féminin soient mélangés et quand on dit, qu'on crée une... comment on appelle ça? Une...
Et ben, moi, je dis bonjour à tous, et puis zut.
Oui, oui, mais oh là là. Les féministes ne sont pas d'accord, hein, parce qu'elles pensent que c'est réservé aux hommes, quand on dit tous.
Non, c'est générique, on va dire.
Oui, on dit que c'est générique, mais elles ne sont pas d'accord.
Enfin, on
ressent. Alors, il faudrait créer pour la grammaire, hein, n'est-ce pas, pour la conjugaison.
Déjà, ils le font déjà avec « il » et « elle ».
Oui, mais ça, c'est mal foutu.
Et
ça,
ben, c'est... Je te le fais pas dire.
C'est extrêmement mal foutu, on s'y perd. Il va falloir créer autre chose. Enfin, bon, hein, tant pis. Alors, pour l'instant, oui, tu dis que c'est générique. Je suis bien d'accord. Mais il y a quand même des gens qui disent que non, c'est pas générique. On en a marre que ce soit toujours le genre mâle qui soit en devanture et les femmes derrière. Voilà. Bon, passons. Alors aujourd'hui, nous sommes que trois petites dames.
Voilà. Pas de mots passants.
Pas de mots passants voilà. D'aujourd'hui, n'est-ce voilà. pas ? Et Anne et moi, donc, nous sommes allés voir Louise Weber, dite la Goulue. Et tu seras d'accord avec moi, oui. Anne. Delphine Grandsart qui est l'interprète, franchement, on s'y croirait quoi, on croirait qu'on a en face de soi la Goulue, surtout qu'elle a un superbe costume et puis
d'époque, je tiens à le souligner.
Voilà, d'accord. Delphine Grandsart.
Bonjour à tous. Tous, t'en dis, non ? Je crois que c'est comme ça.
Toutes.
Oui. Bref. D'abord, merci d'être venu découvrir le spectacle. Ça me touche beaucoup. Et puis, je suis ravie que ça vous ait plu, évidemment. Et d'être avec vous aujourd'hui, voilà.
Bah, moi, quelque part, franchement, je me serais crue un peu au Moulin Rouge, hein. Un petit peu, hein.
Alors, comme vous vous en souvenez sans doute, l'idée là.
Je suis jamais allée au Moulin Rouge.
Ouais.
Jamais.
Oh, bah aujourd'hui, c'est moi personnellement, j'y suis allée. Bah grâce à l'auteur d'ailleurs, Delphine Gusteau, qui m'avait emmenée au Moulin Rouge juste avant qu'elle termine le texte en fait, puisqu'elle a écrit le texte il y a maintenant quelques temps. Et donc elle m'avait emmenée au Moulin Rouge et je vous cache pas que aujourd'hui c'est vraiment, ça a plus rien à voir avec l'époque de la Goulue, évidemment. Les danseuses sont souvent aujourd'hui des anciennes danseuses classiques, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque de la Goulue. Il n'y avait pas le rapport scène-salle, puisqu'à l'époque de la Goulue tout était mélangé.
Voilà. C'était cabaret un peu, non ?
Ben, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il y avait une ambiance comme ça où les danseuses arrivaient. Ben, on le voit très bien dans le film, entre autres French Cancan de Renoir, que je vous engage à regarder, même si Renoir n'a pas gardé le nom de Zidler qui a créé le Moulin Rouge. Le personnage, c'est Danglars, joué par Gabin. Mais en fait, on comprend à demi-mot que c'est quand même, il y a un lien avec l'histoire du Moulin Rouge. Et on voit ça très bien dans le. À un moment, on voit toutes les danseuses de Cancan qui arrivent comme ça.
Ah oui, c'est formidable.
Voilà, avec tout le public qui était dans la salle, en fait.
Ça s'appelle comment déjà le
French Cancan.
French Cancan, ouais, voilà.
C'est un film de 54.
Oui, très très beau film. Enfin, moi, je l'aime énormément. De toute façon, j'aime beaucoup tous ces films-là, et notamment les films de Renoir. Donc, effectivement, là, nous, l'idée... L'idée de Delphine au départ, et moi ça m'aurait pas intéressé si ça n'avait pas été ça d'ailleurs, c'était non pas de raconter que la période cancaneuse de la Goulue, mais toute sa vie. Hein, puisque comme vous avez vu le spectacle, vous n'êtes pas sans savoir que on raconte l'histoire à rebours. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de pendant une heure, on voit un peu toute la vie de cette femme, puisque sa période cancaneuse n'a été que 6 ans. Dans sa vie. Or, elle est morte, elle avait plus de 60 ans. Donc, effectivement, elle a quand même fait d'autres choses. Et pour nous, c'était important de rendre hommage à la femme avant de rendre hommage à la cancaneuse.
Oui, voilà. oui, tout à
elle
fait.
Elle s'est occupée des animaux blessés vers la fin.
Voilà, à la fin de sa vie, effectivement, bon, elle a terminé dans la déchéance la plus totale. Et elle a recueilli beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, on voit des photos d'elle. Bon, le cinématographe n'existait pas trop à l'époque, enfin quand elle était jeune. Mais il existe quand même une vidéo de la Goulue. Un journaliste qui l'avait filmée un an avant sa mort, donc en 1928. Elle vivait dans une petite roulotte un peu pourrie, il faut bien le dire. Et on la voit donc Elle avait énormément grossi. Enfin bon, elle était.
Ah bah ça, c'est l'alcool et puis etc.
Oui, oui, bah elle est tombée dans l'alcool à la suite de la suite à son le choc qu'elle a eu en perdant son fils, ce qu'on peut comprendre. Alors c'était une osseuse, hein. C'est quelqu'un qui a toujours aimé faire la fête. Elle adorait. D'ailleurs son surnom. Alors il y a deux versions. On dit qu'on l'a appelée la Goulue parce qu'à un moment elle a partagé sa vie avec un homme qui s'appelait Goulue Chilipan. Mais il y a aussi la légende qui dit que c'est parce qu'elle terminait les fonds de verre. Voilà, donc nous, on a voulu garder un peu cette deuxième, cette deuxième version qu'on trouve un peu plus rigolote. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'était quand même une épicurienne. Hein, elle aimait faire la fête, elle a toujours aimé la bonne chère. Mais c'est vrai que la bascule, et on le voit bien dans le spectacle, la bascule se fait quand elle perd son fils, où là, c'est la déchéance, quoi. C'est-à-dire qu'elle tombe vraiment dans l'alcool. Et puis alors, ironie de l'histoire, elle a quand même fini sa vie en vendant des allumettes en retournant sur le lieu qui a fait sa gloire, c'est-à-dire oui. devant le Moulin Rouge.
Ah oui.
C'est quand même terriblement atrocement tragique, quoi. Enfin,
ou voilà. Elle a croisé aussi Miss Tinguette.
Voilà, exactement, elle a croisé Miss Tinguette.
La Nice avec de belles gambettes,
ah oui.
C'est sûr.
Oui, oui. Bon, ouais. Mais j'ai vu des photos sur internet.
Ouais.
C'était quand même une jolie femme.
Elle était très jolie. Elle était bien en charme, et comme c'était les canons de beauté de l'époque. Et puis, alors, pour en revenir aux danseuses, il faut savoir que toutes ces filles-là, c'était des filles très populaires. Souvent, elles venaient de milieux très prolo. Et elles étaient souvent blanchisseuses. Donc, elles allaient le soir faire la fête dans les petits bals. Voilà. Et d'ailleurs, la Goulue a été repérée par le type qui s'appelle donc Zidler. Olaire et Zidler, c'était deux hommes qui ont créé le Moulin Rouge. Ils ont repéré la Goulue, donc, un soir comme ça, quand elle dansait dans les petits bals un peu malfamés parisiens. Mais c'est vrai que c'était pas à la base, c'était pas des filles qui avaient des formations danseuses. C'est pour ça que je trouve ça un peu. Je comprends, après, bon, aujourd'hui, le Moulin Rouge, c'est devenu un business, en fait, hein, soyons clairs. Alors, je sais qu'ils ne seraient peut-être pas contents de m'entendre dire ça, mais je m'en fous. Je le pense. Et c'est vrai que. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire que, alors à l'époque aussi, ils faisaient de l'argent, hein. Attention,
oui,
je
oui,
dis
oui.
pas ça. Hein.
Oui, oui.
Les bourgeois venaient s'encanailler là-bas, etc. Mais c'est vrai que les danseuses à l'époque, c'était pas des danseuses classiques. Aujourd'hui, elles sont sublimes, les danseuses du Moulin Rouge. Quand elles dansent le cancan, elles vous font des. Voilà, on
oui,
voit.
Oui,
des...
c'est plus sophistiqué. Hein.
Voilà, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus chic, on va
oui,
dire.
Oui, oui, non, mais en fait, c'était elle était nature, en plus.
Exactement.
Elle avait ce côté nature. Qu'aujourd'hui, bon, bah, le côté nature, bon, bah, c'est pas ce qui.
Ah, ben non, et puis de toute façon, je vais vous dire, aujourd'hui, ça passerait plus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, elle a quitté le Moulin Rouge. Nous, le parti pris aussi du spectacle, c'est de parler du moment où elle quitte le Moulin Rouge. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez la scène quand je reviens et que je dis, ah, dernier soir au Moulin, enfin.
Oui.
C'est que, voilà, l'histoire dit quand même. Alors, nous, on a eu, avec Delphine, bon, elle avait fait énormément de recherches. Il n'y avait pas grand-chose. Chose, hein, sur la Goulue. On a eu accès aux archives. D'ailleurs, je remercie mille fois ma Michel Trente, qui est une femme incroyable, qui est au musée Montmartre. Et on a retrouvé notamment des journaux d'époque. Et on a retrouvé une interview de la Goulue, qui à un moment se fait interviewer par un journaliste, donc, et qui lui dit et ça, on l'a gardé dans le spectacle. On dit, oh, ils m'ont fait une saleté au Moulin, ils veulent que je turbine que pour eux, mais tout ça pour 300 balles. Donc en fait, on comprend à demi-mot que, bon, bah, elle avait le sentiment quand même de se faire un peu arnaquer, quoi. Et elle a quitté le Moulin Rouge, donc, au bout de 6 ans, donc en 1895, pour s'installer à son compte. Et ça, c'est extrêmement moderne. Parce que elle a décidé, alors que c'était, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, c'était une star, hein, à l'époque du Moulin Rouge. Alors, elle gagnait quand même très, très bien sa vie par rapport aux ouvrières, parce qu'elle venait d'un milieu très ouvrier. Donc, c'est vrai qu'il y avait une ascension sociale tout à fait énorme. Mais à un moment, elle en a eu marre, en fait. Elle s'est dit, en plus, comme elle avait beaucoup de succès, bon, on imagine qu'elle a dû dire, bon, bah, les gens, ils vont me suivre. Et donc, elle a monté une baraque dans les fêtes foraines. Voilà. Or, les gens, petit à petit, ne sont plus venus. Et là, c'est là où elle a commencé aussi à péricliter au niveau artistique, quoi. Voilà.
Eh oui.
Donc, c'est un parcours de vie qui est quand même, enfin, qui est très moderne.
Facile, oui, 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 c'est
et puis
sûr.
Qui est très moderne parce que à l'époque, il faut quand même pas oublier que beaucoup de danseuses terminaient cocottes, quoi. C'est-à-dire, elles se faisaient entretenir par des hommes. Bon, bah, la Goulue, elle tutoyait les princes, elle envoyait chez toute la haute.
Parce alors, il paraît qu'elle a envoyé chez le prince de Galles.
Exactement. Et ça vous... Alors, évidemment, ça les excitait, hein, parce que ça, ils venaient s'en canailler. Et, moi, c'est mon analyse. Hein, je pense que ça, c'est pareil, ironie de l'histoire. Elle est retournée, elle tombait amoureuse de types qui étaient quand même plutôt
macho,
des...
Macho, hein.
Et puis, surtout des petits voyous.
Ah, des voyous.
Voilà, alors, des petits voyous.
Mais pareil
des...
qu'il la battait.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, je vais vous dire, dans les milieux des Apaches, par exemple, alors je ne dis pas qu'elle a forcément traîné avec les Apaches, mais on le voit bien dans toute la littérature, dans, même dans la musique, dans les paroles des chansons de l'époque.
Bah, chez Fréhel aussi, il me semble. Hein,
voilà, bon, Fréhel, c'est un peu plus tard.
Un peu plus tard, mais déjà...
À la belle époque, on voit bien que... Mais les femmes ne se laissaient pas faire dans ces milieux-là. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est que ça n'était pas des femmes... Et d'ailleurs, le spectacle, quand même, j'espère qu'il le fait bien comprendre, c'est que la Goulue, elle ne se laissait pas faire. D'ailleurs, elle se faisait... Elle rendait à pareil. C'est-à-dire que quand on la frappait, elle frappait. Voilà.
D'accord.
Donc ça aussi, c'est quand même extrêmement moderne. Enfin, je ne sais pas si c'est moderne d'ailleurs, parce que puis, de toute façon, toujours être moderne, on s'en fout un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelqu'un qui avait énormément de tempérament et qui n'était pas soumise. Voilà.
Oui.
Donc, il ne faut pas croire que parce que, effectivement... Alors nous, c'est important pour nous de parler des femmes battues, parce que ça montre aussi comment on se sort... d'une histoire d'amour quand on est dans la violence.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui.
Bon, il ne s'agit pas de dire que c'est bien. Il s'agit juste de dire une réalité, c'est que quand ça vous arrive, quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, et que vous êtes dans une histoire passionnelle, comment on fait pour se sortir de ça? Voilà. Bon, il se trouve que la Goulue, elle est tombée sur des hommes, effectivement, qui l'a fracassée, mais c'était des petits voyous, c'était des mecs... Bon, après, dans la haute, chez les bourgeois, ils frappent aussi leurs femmes. Hein. Il faut arrêter de penser que c'est que les... Hein, on le sait bien. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'ils le cachent beaucoup plus que dans les milieux plus populaires. Mais elle se laissait pas faire. Voilà. Et le spectacle raconte ça aussi. Vous voyez, c'est une sorte aussi d'émancipation. C'est comment elle a toujours tenu tête aux hommes, la Goulue. Voilà. Elle ne sait pas. Après, elle en a profité aussi. Hein, attention, elle a profité toute sa période justement où elle était star. Elle a dû sans doute, elle avait la belle vie. Elle a profité quand même aussi de tout ce qui lui était offert.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a eu raison.
Oui.
Hein, qui n'aurait pas fait la même chose à sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, mon analyse, c'est qu'à un moment, je pense qu'elle en a eu marre, en fait. Je pense que c'est une femme. Il faut pas oublier qu'elle vient d'un milieu très prolo. Et à un moment, je me dis, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est mon analyse. Je dis, tiens, de toute façon, on n'est pas dans sa tête, on le saura jamais. Mais moi, mon analyse, c'est qu'à un moment, elle a dû en avoir marre de fréquenter la haute.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'était pas son milieu. De
non,
toute façon.
Voilà. Et elle devait sans doute peut-être s'ennuyer. Elle devait, voilà. Et à un moment, je pense que c'est aussi pour ça. Encore une fois, c'est mon analyse.
Oui, oui.
Qu'elle a décidé d'arrêter. Elle en a eu marre. Elle a voulu retourner vers des gens qui étaient de sa veine.
Oui.
Hein,
oui.
Et voilà. Et après, c'est vrai qu'ironie de l'histoire, bon, elle s'est fait plumer par ses gars. Voilà, ils lui ont piqué tout son fric. Et la pauvre, donc, elle a fini... voilà, donc c'est un destin qui est quand même assez étonnant.
Oui, c'est certain.
Pour l'époque. Hein.
Et il y a quand même sa rencontre avec Toulouse-Lautrec.
Ah, extrêmement importante. Oui.
Très, extrêmement importante. Oui. C'est vrai qu'en une heure de temps, c'est un peu difficile de... Comment dire de...
De tout mettre,
oui.
Oui, mais le travail fabuleux de Delphine Gusteau, et je tiens à le souligner parce que c'est un cadeau en or qu'elle m'a fait, c'est d'écrire ce rôle, c'est qu'elle a réussi à partir d'éléments factuels à amener de l'humain. Voilà. Et c'est toute la différence pour moi entre la littérature, un biopic tel qu'on peut les lire comme ça dans un livre, et quand on l'amène au plateau.
Oui, parce qu'on a l'impression en fait... que c'est pas le biopic de c'est pas quelqu'un qui raconte la vie de Louise Weber, c'est la Goulue qui se raconte.
Voilà.
C'est différent.
On est dans son intimité.
Voilà.
Et ça pour moi, et d'ailleurs moi personnellement, j'aurais pas si elle m'avait dit parce que c'est vrai que souvent moi les biopics au théâtre ça m'ennuie un peu parce que souvent les gens ils sont dans la narration.
Voilà.
Hein, c'est souvent à cette époque j'ai rencontré machin et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, et toute la force de ce texte c'est que les gens vivent les situations avec moi en temps réel. Voilà, on embarque les gens dans la belle époque et ils vivent en temps réel. Et puis la deuxième originalité, c'est, vous avez vu, c'est à rebours.
Oui, ça c'est original, ça,
c'est,
oui.
C'est super.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est vachement
c'est
bien
pas mal
parce
du tout,
que
oui.
On la voit vieille et on la voit petite fille. Et ça c'est un truc qu'on a, sur lequel on est vraiment d'accord, Delphine et moi, c'est que tout part de l'enfance, on le sait bien. Ah, et oui. Le fait de terminer par son enfance, qui a quand même été aussi tragique d'une certaine manière, puisque elle a vécu des choses pas faciles, eh bien ça fait résonance après. Avec tout ce qu'elle a vécu
oui,
par la
exactement,
suite.
Oui, exactement, c'est
parce
très fort.
Parce qu'on
oui.
sait bien qu'on est tous tributaires oui. de notre enfance, quoi.
Oui. Voilà. Il y a une, j'ai vu qu'il y avait une bande-annonce sur YouTube.
Oui.
Peut-être qu'on pourrait... Elle est bien, en fait, je n'ai pas regardé, excusez-moi.
Je ne l'ai pas... Bah non, vous n'avez pas bien fait, tu n'as pas bien fait ton préparé ton sujet, dis donc, Vilaine. Non, non, mais écoute, la bande-annonce, en fait, c'est un petit teaser, hein. Il n'y a rien de... En fait, c'est juste quelques images.
Peut-être que je l'ai regardé, mais j'ai oublié.
En fait, ce sont quelques images du spectacle, hein, puisqu'il y a un moment, il y a eu... Bon, moi, j'aime pas trop le théâtre filmé, mais bon, c'est vrai
non,
que...
Non, c'est pour entendre voilà. un peu de musique. Je sais pas s'il y en a dans le YouTube, là, de
Tissa. Oui, il y a. Il y a, tout à fait. Bon. On peut mettre...
Ah ben en fait voilà. on t'entend pas là.
Non non, c'est ce que j'ai dit, le teaser on a pris le parti de mettre juste un extrait musical et on voit juste uniquement les images du spectacle défiler.
Ouais. Ah, et oui. Vous faites bien participer les spectateurs, ça,
ouais.
ça se passe bien généralement.
Alors, écoutez,
il y a des gros timides peut-être.
Voilà,
aussi.
En fait, c'est vrai qu'à l'époque, donc toute cette période du cancan dans le spectacle, hein, parce qu'il fallait quand même qu'elle dise ça, parce que c'est important, avec l'auteur Delphine Gusto, on s'est dit comment amener cette interaction qu'il y avait à l'époque. Donc. Ouais. Et donc, bah, on l'a créée pendant le spectacle. Voilà, alors, il y a quelque chose qui est assez étonnant. C'est que donc le spectacle, on l'a créé donc il y a 10 ans quand même. D'ailleurs, avec Delphine, on s'est dit mais jamais on aurait imaginé en 2016, quand on a fait les premières lectures, qu'on le rejouerait encore au Lucernaire en 2026. Donc c'est vrai que c'est quand même assez fou quoi ce projet. Et moi, je suis ravie de toujours mettre en lumière cette femme vraiment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec Delphine, on s'était dit donc voilà interaction et je vois la différence dans la réaction des gens entre il y a 10 ans et maintenant.
Ah oui.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser. Eh bien, j'ai plus de gens choqués aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Voilà. Ah bon ?
Donc ça, c'est vachement intéressant quand on est artiste et qu'on joue un spectacle comme ça sur le long cours, enfin sur une si longue période. Ça en dit long sur la société, en fait, qui évolue. Comment elle évolue ou pas, et comment, etc. Ouais. Et c'est assez étonnant de voir qu'à certains passages, pas tous, hein, on sent que les gens sont beaucoup plus mal à l'aise aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc c'est quand même grave, moi je trouve, parce que ça signifie ce que je pense d'ailleurs, c'est qu'il y a sur certains domaines une régression qui est assez pour moi terrifiante et voilà, ça me peine énormément et en même temps ça me réjouit encore plus de jouer ce spectacle parce que je me dis que si aujourd'hui une femme comme la Goulue peut choquer encore, mais on a encore du boulot à faire quoi.
Hein, oui. Voilà. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Hein,
Bah c'est selon les tempéraments, mais je vous assure qu'il y a des passages.
Bon,
par
c'est
exemple...
vrai que elle a beaucoup de gouailles. Hein. Si on a un tempérament un peu timide, bon, on voit cette dame plantureuse, etc., qui s'approche de vous.
Si on est monsieur, surtout,
si on est timide, oui. Effectivement, on peut avoir un peu de recul.
Oui, non, mais
c'est pas ça.
Là, je parle pas de timidité. Je parle de gens qui sont, par exemple, quand je vais à un moment. Je prends à partie un homme et je lui dis que c'est le prince de Galles,
oui.
Où elle lui disait hey, Galles, tu paies le champagne, c'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite. C'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite. souvent aujourd'hui, la femme qui est à côté de l'homme, si elle pouvait me...
Ah ouais?
Ah bon, à ce moment-là?
Oui. Beaucoup plus qu'avant. Alors, pas toutes les femmes, attention. Ça arrive pas tous les jours.
Il y a peut-être la jalousie parce qu'elle est quand même bien plantureuse.
Oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les gens oublient que nous sommes au théâtre et que je joue un rôle.
Oui.
Vous voyez?
Mais il y a les
c'est
gens
ça.
Qui peuvent oublier.
C'est ça.
Hein.
Qu'est-ce qu'elle a cette femme?
Elle s'approche
Je pense aussi qu'il y a un côté peut-être une morale qui est plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Je ne sais pas. En tous les cas, je n'ai pas l'explication, mais je le constate. Voilà, c'est un constat.
Non. Il faut dire qu'elle est attirante quand même.
Elle venait tous voir la goulue. Et puis les messieurs, parce que alors, ça aussi, c'est un truc qui est quand même dingue, c'est qu'il n'y a quasiment pas de mecs qui viennent voir ce spectacle.
Ah bon?
Mais oui!
Ah zut,
j'ai
alors.
Beaucoup plus de femmes. Alors, d'une manière générale, les femmes vont plus au théâtre que les hommes, apparemment, semble-t-il. Mais moi, je déplore qu'il n'y ait pas plus de mecs. Ah oui, alors j'adore les femmes, attention. D'ailleurs, comme vous le savez, elle assumait, elle était totalement bisexuelle. D'ailleurs, ça aussi.
Ah oui, ça c'est choquant. Hein. Non, je plaisante.
Eh ben, vous rigolez, mais pour certaines femmes dans la salle, quand je les prends à partie, que je dis je vais retrouver mon amie, et qu'on comprend qu'elle aimait aussi les femmes, eh bien, il y a des femmes qui baissent les yeux.
Et Miss Tinguette, elle n'était pas...
Je ne sais pas.
Moi, je n'aimais pas Miss Tinguette.
Ah non, ce n'était pas Miss Tinguette, c'est Sarah Bernard.
Je n'aimais pas Miss Tinguette.
Sarah Bernard, peut-être.
On ne va pas parler de Miss Tinguette. On parle de la Goulue. Ah, oui. Non, mais c'est vrai que la Goulue, aujourd'hui, je me rends compte que... pas tout le monde, évidemment, j'exagère. Enfin, les gens vont penser que c'est tout le temps, mais absolument pas. Hein. Ça reste quand même isolé, les gens qui sont choqués. Mais ça n'arrivait pas il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a quand même un peu plus. Il y a 10 ans, pas. Il y a 10 ans, les gens se marraient, ça ne les choquait pas. Ils n'étaient pas... voilà, donc je ne sais pas. Hein, je n'ai pas, l'explication. C'est juste un constat. Et je me dis que c'est intéressant. Quand on joue un spectacle comme ça aussi longtemps, de voir l'évolution...
Mais alors, le public, c'est... Il y a quand même des personnes d'un certain âge qui viennent. Hein.
De toute façon, au théâtre, vous savez, qui a les moyens d'aller au théâtre, hein. Je vais vous dire, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont au théâtre. Mmh. Et ça, c'est pareil, je le déplore, parce qu'en plus, on trouve des places pas chères aujourd'hui sur Internet. Mmh. Hein, on se débrouille toujours pour qu'il y ait des tarifs très préférentiels. Et il faut savoir que les jeunes, je fais une annonce aux jeunes qui nous écouteraient, pour les moins de 26 ans, la place est à 10 euros au Lucernaire.
Ah bah oui,
voilà.
Oui, faut le dire,
et je veux qu'il y ait des jeunes. Et quand il y a des, d'ailleurs les jeunes quand ils viennent, et notamment les jeunes femmes, elles adorent parce qu'elles sont, elles se disent oh mais c'est dingue cette femme comment elle était quoi. Parce que c'était un peu une punk avant l'heure finalement la Goulue. Vous voyez
parce que ça change aussi un petit peu, je dirais. Je faisais le parallèle avec la Belle Otero ou bien Liane de Pougy qui étaient des demi-mondaines.
Oui
aussi.
Mais bah, alors
c'est pas la même chose que la Goulue.
Non parce que la Goulue n'était pas une demi-mondaine.
Bah, voilà.
Voilà. Oui. C'est toute la différence. La Goulue n'a jamais été bourgeoise.
Non,
vous voyez.
Et d'ailleurs, elle est retournée à.
Exactement.
Elle est devenue foraine. Elle est retournée
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je pense que c'est pas un hasard. Je pense qu'elle n'avait pas une admiration pour le luxe et pour les bourgeois. Sinon, comment on explique qu'elle est arrêtée en pleine heure de gloire?
Une
femme qui aimerait, qui aurait tant aimé ça, etc. Pourquoi elle arrêterait? Bon, moi, mon explication, c'est qu'en fait, ça ne l'intéressait pas. Elle avait besoin de retourner de là où elle venait, en fait.
Puis elle aimait danser, elle voulait danser.
Et puis voilà, elle devait pas. Et puis elle était politiquement incorrecte, donc elle devait s'ennuyer avec ces gens-là. Et comme je la comprends.
et donc sa rencontre, parce que Toulouse-Lautrec, lui, c'était un noble,
Oui, mais vous savez bien que Toulouse-Lautrec, il a un petit peu pas rejeté sa famille parce qu'il l'aidait.
Oui, ça, je sais.
Mais il s'est quand même affranchi de sa famille. Enfin, je veux dire, Toulouse-Lautrec.
Parce que lui, c'était pas de son milieu non plus. Enfin, elle n'était pas de.
Oui, et puis Toulouse-Lautrec, il a eu la vie de bohème. Enfin, je veux dire.
Oui, Toulouse-Lautrec, c'était.
D'ailleurs,
c'était
il a mal fini. Je le raconte aussi dans le spectacle. Il est mort de la syphilis. Voilà, c'était un queutard. Il picolait tout le temps, enfin, il faisait que des conneries. Enfin, moi, j'ai retrouvé des photos de Toulouse-Lautrec délirantes où il est sur la plage, où il est en train de faire caca sur la plage. Quoi.
Ah oui, quelle horreur.
Ouais, ouais.
Enfin, quelle horreur. Bon,
mais c'était sa manière à lui peut-être de s'amuser, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y avait un côté très provoque aussi chez Lautrec.
Ouais.
Et c'est pas un hasard s'ils s'entendaient si bien tous les deux. C'est que je pense qu'ils devaient se retrouver dans ce côté provoque. Ils aimaient provoquer. Ils aimaient.
Ah oui. Voilà. Oui. Ah, effectivement.
Ouais.
Et puis quand même, Lautrec, il l'a, en quelque sorte immortalisée.
Ah bah oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que une des affiches les plus vendues aujourd'hui à Montmartre en reproduction, c'est l'affiche de la Goulue au Moulin Rouge, là, où on la voit... Oui. Voilà, avec Valentin Désossé en ombre, cette affiche est absolument magnifique. Et puis une chose aussi qu'on peut voir, qui est quand même sublime, c'est moi un de mes musées préférés. Enfin, mon musée préféré, c'est le musée d'Orsay. Et il y a les panneaux de la baraque de la Goulue au musée d'Orsay, qu'avait peint Lautrec.
Ah oui, oui, oui.
Et oui, les grands tableaux.
Oui, il n'a pas peint que il n'y avait pas que l'affiche, il y avait aussi
ce tableau-là. Ah, mais il l'a peint énormément, souvent, très souvent.
Très souvent.
Ça a été une de ses égéries, quoi.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Après, il n'est pas tombé amoureux d'elle, hein, puisque lui, il était amoureux de Jeanne Avril. Mais nous, avec Delphine, ça c'est pareil. C'est un petit peu. On sent bien qu'ils devaient être très potes, quoi. Voilà, alors oui. Peut-être qu'ils ont couché ensemble, hein, mais bon, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Enfin, voilà, et c'est pour ça que vous avez vu dans le spectacle, c'est un peu le fil rouge.
Oui, oui.
Toulouse-Lautrec. Pour nous, voilà, c'était ça aussi, c'est une très belle idée d'avoir gardé cette espèce de fil rouge comme ça. Et puis ça permet de rendre hommage aussi à cet artiste fabuleux. Moi, j'adore Lautrec, c'était un peintre incroyable. Oui. Dessinateur aussi, fabuleux.
Oui, oui. Fabuleux. Oui, oui. Ouais, c'est sûr.
Ouais. Est-ce qu'il avait dessiné aussi Grille d'égout et puis La Môme Cacao aussi?
Alors, il a dessiné énormément de danseuses, hein, oui. Quand tous ces grands tableaux, ces grandes toiles où il est au Moulin Rouge. Mmh. Mais il a aussi rendu hommage au cirque. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qu'il a fait sur le cirque.
Oui, on l'avait vu.
Absolument incroyable. Et puis, ça a été un des premiers à faire un peu ce qu'on appelle les affiches publicitaires. D'ailleurs, il y avait eu une expo incroyable sur toutes ces affiches au 19e, fin 19e, où on a commencé à afficher dans Paris. Voilà. Et Lautrec fait partie de ces premiers affichistes, en fait. Incroyable. Il a fait des affiches hallucinantes, quoi.
Ah oui.
Moi, je suis une dingue de toute cette période, déjà. Je suis passionnée par la Belle Époque.
Il y a un musée à Montmartre, il n'y a pas de...
Oui, il y a le musée, bien sûr, il y a le musée de Montmartre.
Il y a le musée Montmartre.
Rue Cortot.
Ah non.
Si
on trouve des peintures de Toulouse-Lautrec.
Et puis, on voit plein de photos de la Goulue.
Ah oui, oui. Donc, il faut aller au musée de Montmartre.
Mais bien sûr. Et puis, de toute façon, il faut y aller parce que c'est un lieu magique. C'est un lieu magique. Il y a ce jardin incroyable. L'été, il n'y a quasiment personne. Vous pouvez boire un verre. Enfin, moi, j'adore. J'aime beaucoup aller là-bas.
Ah oui.
Ouais.
Oui, oui.
Ça fait partie de ces endroits dans Paris, comme ça, un peu à l'abri de la folie urbaine, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup aller là-bas.
Alors, pour ne pas oublier, je vais quand même dire que où ça se passe.
Ouais.
Alors, ça se passe au Théâtre du Lucernaire. Et 53 rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e à Paris.
C'est ça.
C'est à une station de Vavin et de Montparnasse. Enfin, bref, oui, c'est à côté, c'est dans le coin. Ou de Raspail. Enfin, bref, c'était.
De toute façon, à Paris, tout est facile d'accès. Oui. Comme
donc, c'est à 21h, du mercredi au samedi.
Et à
17h30, le dimanche.
Voilà. Voilà. Et si vous vous mettez au premier rang. Eh ben, vous aurez peut-être une petite surprise.
Voilà.
Ah oui.
Enfin, un peu dans tous les rangs, d'ailleurs.
Oui.
Mais je ne dévoilerai pas. Non, mais venez découvrir la vie de cette femme. C'est quand même un parcours...
Je dirais que c'est rafraîchissant. Alors, il y a aussi de la tristesse et de... on a beaucoup d'empathie pour cette femme. Mais je dirais aussi qu'on passe un bon moment de bonne humeur.
Oui. C'est-à-dire que c'est la vie, en fait. Hein, vie, on sait bien qu'on a des moments très tristes et des moments très joyeux. Oui, et ça aussi, c'est toute la force de ce texte. C'est que Delphine a réussi à mélanger à la fois, à montrer ses moments tragiques et les moments de joie de la Goulue, quoi.
Et qu'est-ce qui l'a amenée à faire ce portrait de la Goulue? Elle était intéressée par la Belle Époque, par le
personnage? Alors au départ, non, elle avait un ami qui travaillait justement au Moulin Rouge.
Ah, d'accord.
Comme serveur. Et elle allait, un jour elle était au Moulin Rouge et elle voyait les affiches comme ça, les photos de la Goulue, les affiches. Je sais plus s'il y a des affiches ou des photos, je pense qu'il y a les deux. Et elle s'est dit, mais en fait, quelle était la vie de cette femme? Et c'est parti de là, en fait.
D'accord.
Voilà. Et après, on s'est rencontrés quelques temps après par un ami en commun. Et elle m'a proposé le rôle. Voilà. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été fait de mettre en avant comme ça la Goulue, quoi. Mmh. Au théâtre.
Alors, voilà. Il y a une tradition ici. Alors, je ne sais pas, on n'est pas du tout dans le contexte d'une scène de théâtre. C'est de demander à nos invités de dire un petit extrait.
D'accord. Voilà. Écoutez, alors attendez, je réfléchis. Dernier soir au moulin, enfin. Bah quoi? Je veux pas passer ma vie à lever la gambette ici. Oh, puis ça va faire des vacances à la police des mœurs. Au père la pudeur, qui me met à l'amende à cause du corps brodé sur mon caleçon. Il dit que je monte mon cul au public. On va se demander s'il en a déjà vu un en vrai. Ça vous va?
Oui, oui, bravo. Oui, ça nous va. Ça nous dit bien un peu. Elle avait un franc-parler.
Oui, elle était. Je pense qu'elle était. Oui, elle avait peur. C'est-à-dire que ce que raconte aussi ce spectacle, c'est que. Et ça, c'est quelque chose qui est intemporel. C'est. Elle a payé cher sa liberté, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas quand vous êtes un peu sans concession, quand vous avez un franc-parler, quand vous n'hésitez pas à envoyer chier les gens, à dire ce que vous pensez, en fait, et à pas être dans les conventionnels, et ben forcément, vous prenez le risque d'être un peu rejeté, hein, quand même.
Oui.
Donc,
oui.
Ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité.
Elle avait. Il y a eu des témoins de sa vie, enfin, qui ont parlé d'elle.
Alors, il y a des. À la fin, il y a eu des journalistes. Qui l'ont justement côtoyé, là, je sais plus, son nom m'échappe, qui l'avait filmé à la fin de sa vie.
Ouais.
Voilà. Et puis, après, il y a des quelques témoignages, mais pas tant que ça. Hein.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Non.
Ah oui. Non. Oui, c'est pas. Bah, c'était pas la même époque.
Alors, il y a un type qui s'appelait Michel Souvet qui avait. Qui se disait un peu, je sais plus, c'était
son
un
arrière-petit-fils.
Ouais, c'était son arrière-petit-fils. Lui, il avait écrit un livre.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Il y a aussi quelqu'un qui a écrit La romance de la Goulue.
Oui, voilà. Oui, j'ai vu ça. Ouais.
Mais bon, c'est très fictionnel, plus. Enfin,
oui,
mais
oui.
Ça part. Après, voilà, la Goulue n'a pas vraiment, elle n'a pas écrit ses mémoires. Et puis, il y a une, d'ailleurs, c'est ressorti là, aux éditions du Rocher, il y a une biographe qui s'appelle Marilyn Martin, qui, elle, a écrit, donc, il y a. C'est sorti en 2019, une biographie sur la Goulue.
Ah oui,
voilà.
Oui.
Donc voilà. Et puis, il y a le texte évidemment de Delphine Gusteau, mais si vous voulez, nous là, on est dans un objet théâtral. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le texte de Delphine, c'est qu'on raconte des faits réels, mais on y amène de l'humanité en fait. Ouais. Parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de rendre hommage à cette femme, au tempérament,
oui.
à son côté humain. C'était une femme qui était très humaine en fait.
Oui.
Très humaine.
Oui.
Voilà. Elle avait beau avoir du tempérament, elle avait beau. Voilà.
Oui, parce que ça commence en disant qu'elle recueillait tous les chats et les chiens.
Oui, bien sûr.
À la fin de sa vie. Oui. Donc, effectivement, quelqu'un qui aime les animaux à ce point, ça ne peut pas être une méchante femme.
Et puis, je pense qu'elle a dû être déçue par l'être humain.
Oui, aussi.
Il y a un nombre d'artistes comme ça, pas que des artistes, d'ailleurs, de gens qui, à un moment, à la fin de leur vie, ils sont tellement déçus par l'espèce humaine. Qu'ils se tournent vers les animaux. Voilà.
Ah oui.
Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est pareil, il faut s'interroger. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça arrive, quoi?
Oui.
Voilà.
Et elle avait des amis parmi les artistes, alors à part Toulouse-Lautrec, elle a été aussi modèle de Renoir aussi.
Oui, elle a été modèle, mais ça, c'est quand elle était jeune. Hein. Elle
oui.
Très, très jeune. Il n'a pas beaucoup peint Renoir, hein, la Goulue.
Non.
Hein.
Non.
Elle a été surtout photographiée.
Ah,
parce
oui.
que la photographie commençait vraiment à prendre de l'ampleur à l'époque. Bah, dans ses amitiés, toute la période où elle a été photographiée, évidemment, elle était très proche des danseuses du Moulin Rouge.
Ouais.
Hein, Gris d'Égout, qui a été sa grande copine, la Môme Fromage, qui a été son amoureuse. Voilà. Mais pareil, elle se bassonnait beaucoup avec les femmes. Hein.
Ah oui?
Ouais. Oui, quand on l'a gonflée, elle y allait, quoi. Et d'ailleurs, le spectacle dit, on a retrouvé des archives où elle allait en procès très souvent.
Ah oui?
Et oui, elle s'était fait, avec Gris d'Égout, elle s'était faite condamnée pour malversation morale.
Ah oui?
Et oui. Mais vous savez qu'à l'époque, il y avait quand même la police des mœurs.
Ah oui?
Et oui, dans les bals, la police des mœurs venait pour vérifier ce que faisaient les gens.
Ah oui, d'accord.
Et voilà, parce qu'il faut comprendre aussi, et ça le spectacle le dit quand même aussi, c'est que le French Cancan, cette danse-là, c'était une manière aussi de dire merde aux conventions, quoi. D'abord de dire merde aux hommes, parce que il faut savoir qu'avant les femmes dansaient avec les hommes, et à un moment ces femmes-là se sont dit bah non, nous on va s'approprier la scène et on va danser toute seule. Et le coup du cul, vous savez, quand les danseuses de Cancan,
c'est elle qui l'a inventé. Ah voilà. Oui, c'est ça.
C'est pour ça
de lever sa jupe et montrer son cul, c'est elle. Même le faire.
C'est elle. Voilà. Ouais, ouais. Et c'était une manière de, ben voilà, de critiquer la religion. Il y a plein de figures de cancan qui étaient des critiques de la religion, antimilitaristes. Ouais. C'est pareil, à un moment, moi, j'ai trouvé ça important de mettre une chanson de Monteius. Qui était, sans doute que vous devez connaître comme émissaire à Radio Libertaire Monteius. Pour moi, c'était très important qu'il y ait, dans la mise en scène, une chanson antimilitariste.
Ah voilà, oui.
Parce
oui,
que
oui.
La GLU, même s'il n'y a pas de traces, de militantisme de sa part, être militant, pour moi, c'est avant tout une façon de vivre. C'est pas être encarté. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans sa façon de vivre, Je suis quasiment certaine qu'elle avait un côté très anard et libertaire, quoi.
Oui, oui. Voilà. Oui, oui, c'est sûr, oui. Oui.
Donc, oui, oui. Les auditeurs de Radio Libertaire venaient donc découvrir la vie de la Goulue.
Voilà. Bah oui, quand
monter
même.
Monter jusqu'au paradis avec la Goulue.
C'est ça.
Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup ben,
merci
pour cette présentation,
pour votre accueil.
Oui. Mais j'espère que. Bon, on est au mois on arrive au mois d'août là. Hein.
Ben c'est oui. Ça. Il reste un mois quand même. Hein.
Ah, il reste
donc
encore
les
un
gens,
mois.
En fait, il reste 25 dates.
Ah,
donc
quand
ça
même,
laisse
hein.
Encore un peu de temps aux gens pour venir.
Voilà. Voilà. Et franchement, c'est un spectacle qui, ben, comment dire, tu as raison de le dire. Anne,
oui.
C'est et puis c'est frais, oui, voilà, quelque c'est part. Joli. C'est très frais. Et on ne sait plus, on se dit pas, oh, ben, ça s'est passé il y a la fin du 19e siècle. Non, ça, je trouve que c'est même un, ça, bon, évidemment, on sait que c'était à la fin du 19e siècle, mais elle a une pétulance, cette Goulue, que finalement, bah on se dit, elle est encore d'aujourd'hui.
Oui, oui, mais c'est oui. Ça, mais de toute façon, oui, c'est ça, elle avait un côté très moderne, donc.
Ah oui, c'est ça, hein,
ouais,
elle
ouais,
est,
complètement.
Elle est très vivante,
ouais.
Et bah, je trouve que vous l'incarnez de façon
oui.
Superbe, quoi.
C'est, ben, c'est merci, ça me touche beaucoup.
Bonne
merci
interprète.
Beaucoup.
Grande interprète.
Merci,
voilà.
Merci, c'est adorable.
Voilà.
Bah, bonne fin de journée à tous, et puis au plaisir de vous voir au théâtre, du coup.
Ok,
oui.
Sans problème.
Et voilà.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons, puisque les hommes sont des sauvages qui renient le Dieu fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueule assomme en 20 secondes. Des régiments, l'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi d'éternels crucifiés? Le meurtre n'est pas une victoire,
qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité, déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans.
Blanche, c'est à vous.
Lorsque le soir étend ses ailes de corbeau. Non. Mieux que le linceul, la bière et le tombeau. Le silence revêt ce que le temps emporte. L'âme en fuyant nous laisse un horrible tombeau et ne nous connaît plus dès que la chair est morte. D'appels fous, longs et désespérés, nous poussons jour et nuit vers tous les enterrés. Quel flot de questions coule avec nos larmes. Ces remords, ces prières, ces deuils, ces spleens, ces alarmes. L'homme attend vainement la réponse des morts. De la création. Feuille-t-on d'autres dossiers? Ça, c'est pour les gens grossiers. Mais l'esprit mathématique veut de plus graves musiques. allons en haut, allemand. Très transcendantalement. Même thème. Autre romance. Attention. Je commence. Sous l'infini pour linceul, zéro s'embêtait tout seul. Soudain, au bord de l'espace, il a vu néant qui passe. Grâce à leur vague absolue, l'un et l'autre se sont plu. Leur union modèle, rien du tout, tient la chandelle. Donc, dans le vide béant, zéro s'accouple à néant. Qui mêle leur inanité jumelle, et de ce coït subtil. Ainsi soit-il.
Jean-Marie Blanche, dans ses œuvres, accompagné par Michel Seul et Yoshida Kei, dans une bonne demi-heure sur Radio Libertaire, dans le cadre de Bulle Noire, l'invité sera Didier Serplet, dit le terreux, le défricheur de l'inutile, l'égoutier des arts, celui qui réussit à se passionner pour les plaques d'égout, les gratte-pieds, les lapins dans un square, les puits de Venise ou les boîtiers de dérivation. Mais dans l'immédiat, Evelan, c'est à vous.
Evelan, voilà, très bien.
Ah, ça y est, on est soudés, là, on est fusionnés.
Et on est fusionnés. Voilà.
Alors, vas-y.
Moi, j'ai fait une petite liste, surtout des pièces qui vont passer à Paris. Alors, déjà, bon, pour rappel, au Lucernaire, il y aura toujours Anne Baquet jusqu'au 23 août. Les Petites Femmes de Maupassant également jusqu'au 23 août. Madeleine Béjart, notre amie Isabelle Andréani, elle reprendra le 26 août, toujours au Lucernaire. Et il y a une pièce que j'avais vue l'année dernière à Avignon, le Schpoutz, d'après le film de Pagnol. Et ça reprendra au Lucernaire le 2 septembre. Alors ça, je vous invite aussi à y aller, je trouvais c'était très bien. Au Poche Montparnasse, à partir du 27 août, pardon, il y aura Bouvard et Pécuchet avec Jean-Paul Faré et je ne sais plus qui sera son partenaire, mais ça c'était bien, Bouvard et Pécuchet. Et Les Petites Misères de la Vie Conjugale qu'on avait vu et qui reprendra le 1er septembre.
Ouais.
Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, au La Bruyère, il y a le, à partir de 26 août, le manuel de la jeune mariée 1957. Et ça, c'était très drôle. C'est vraiment, c'est pas du tout inventé. C'était une, ce qu'on apprenait aux jeunes filles quand elles allaient se marier en 1957. Et c'est pas piqué des verres. Et je vous invite à aller au théâtre La Bruyère à ce moment-là. Et il y a aussi, bon, Saint-Georges du charbon dans les veines. Je l'avais pas vu. Tu l'avais vu, toi?
Non.
Bon. Qu'est-ce qu'il y aura donc? Ah, au théâtre Michel.
Ah ben le charbon dans les veines, je crois que ça se donne au festival de Hèze, qui de Hèze dans les Alpes-Maritimes.
Oui.
Et ça, je crois que c'est un festival qui a lieu du 1er au 5 août. Et il y a du charbon dans les veines.
Ah d'accord.
Voilà.
Mais il avait eu beaucoup de succès au théâtre Saint-Georges. Il reprendra à partir du 15 septembre.
Ouais, c'est à Hèze. Hèze-Village.
Ouais. Hèze-Village, d'accord. Voilà.
Là où habite Jean-Marie, d'ailleurs.
Ah ben, très bien. Ouais. Ben, on ira prendre l'apéro chez lui, après.
Après, c'est ça. Et attends, il y a 6 heures de train, quand même.
Oui, hein. Oui, quand même. qu'est-ce qu'il y a donc aussi? Ah ben, alors, aux Gémeaux parisiens, ils vont reprendre le spectacle, le seul en scène que j'avais beaucoup aimé, Une femme à la mer, l'histoire de Florence Artaud, qui était tombée à la mer de son bateau. Et comment s'en est-elle sortie? Eh bien, vous pourrez le voir à partir du 19 septembre. Et je vous invite vraiment à aller voir ce seul en scène qui était vraiment formidable. D'ailleurs, j'y retournerai. Tu irais, tu viendrais, toi aussi?
Éventuellement, oui.
Mademoiselle Evelyne, d'accord. Mmh. Mmh. Eh bien, écoutez, moi, j'en ai fini là pour l'instant, pour ma petite liste, à voir les pièces en ce moment à Paris.
Alors, moi j'ai fait une petite virée à Avignon, mais que deux jours et demi, et j'ai vu beaucoup de spectacles, mais j'ai pas eu le temps d'écrire les articles, parce que malheureusement, je ferai les articles, mais le problème, c'est que je sais pas, il faudra que je me renseigne auprès des attachés de presse pour savoir quand est-ce que les spectacles vont être redonnés, mais j'ai vu des bonnes choses quand même, malgré tout. Hein. Bon. Oui, parce que c'est quand même un peu critiqué, le festival d'Avignon, parce que, bon, ben, il y a quand même 1800 spectacles, alors c'est quand même un peu trop, c'est difficile de...
Ouais, oui.
C'est très difficile, hein. Ouais, alors justement, j'ai vu un spectacle d'un artiste musicien italien, c'était pas mal, hein. C'est un baroudeur italien, un genre de... un Ed, comme au Moyen-Âge. Et c'est celle qui produit ou celle qui diffuse qui est venue me trouver. Et puis, je suis allée le voir. Il n'y avait pas d'attaché de presse. Et c'est pas mal. Alors, je lui ai dit que je l'inviterai peut-être quand il sera à... Parce qu'il va peut-être jouer à la boussole à Paris et que je l'inviterai pour venir ici. Il a un très joli accent italien. Et il dit le déserteur de Vian en italien. C'est pas mal. Voilà. Bon, mais comme il... Voilà. Alors, j'avais prévu un petit peu... C'est pas vraiment de la pub, c'est de la communication. Il y a un disque, quand même, qui est sorti au mois de juin. Alors, ce serait pas mal, quand même, que d'en informer les auditeurs, les auditrices. C'est La Rose de Chenini. C'est un poème en deux rives de Grégoire Collomb, musique de Catherine Bédez. Alors, bon, c'est assez extraordinaire comme initiative. C'est un poème, un seul poème, qui a été traduit en 32 langues. Hein, il faut le faire, donc ça couvre. Alors, je ne l'ai pas entendu en chinois, mais peut-être en vietnamien, hein. C'est fort possible. C'est dit en vietnamien, et si ça se trouve, c'est Jeanne Varette qui le dit en vietnamien, c'est très possible. Donc, 32 langues, alors bon, ben, ça va du... Il y a certainement de l'espagnol, il y a du polonais, il y a de l'arménien, il y a du français, enfin... Je ne peux pas citer toutes les langues, mais c'est énorme, 32 langues, il me semble déjà. Et voilà. Et entre le parler et le chanter, eux-mêmes, alors les interprétations intercalées parmi les 25 versions instrumental. Bon. Voilà. Alors, c'est décliné sous deux formes. Un album digital, 107 titres en 3 volumes. C'est énorme.
Ouh là là,
c'est quand même énorme. 107 titres en 3 volumes. Voilà. Et donc, poème dit, poème chanté, thème instrumental. Et il y a un CD musical, 41 titres, voilà, 37 versions chantées ou instrumentales, toutes interprétées sur le thème original, Rose. 4 titres bonus pour 4 musiques additionnelles, enfin c'est assez gigantesque, hein. Voilà, voilà. Et donc, écoutez, c'est un CD que l'on peut trouver. Alors ça, c'est important de dire comment faire pour le trouver. Alors, comment il dit ça, Grégoire Colomb. C'est la maison d'édition Faubourg du Monde. Voilà. Et pour se procurer le CD et avoir accès aux 107 titres, je vous invite, alors bon, moi je n'aime pas trop faire publicité, mais je vous invite à aller sur mon site théâtreauvent.com et vous tapez Rose de Chénini et vous avez le lien avoir le lien pour acheter le CD et écouter les 3 volumes en streaming. C'est-à-dire que en streaming, vous pouvez déjà voir ce qu'il y a. Mais si vous voulez l'avoir de façon non éphémère, mais pouvoir y revenir chez vous tranquillement, à ce moment-là, effectivement, il faut acheter les 3 volumes. Voilà. Alors, je vais vous faire la présentation. Je suis un peu longue, hein, excusez-moi. La présentation de Grégoire Colomb. Et ensuite, on écoutera 3 extraits ou 3, voilà, ou même plus. Alors, la genèse du poème « La rose de Chénini ». Ils se sont croisés par hasard. Étincelle d'une rencontre comme un bref instant de splendeur entre une touriste européenne et un enfant du soleil. Quelques minutes d'éternité que symbolise un geste pur. La rose des sables, offerte ce jour-là à l'insu de tous. Tunisie, printemps 2011. Isaline Rémy, poétesse, écrivaine, est aussi journaliste. À ce titre, elle fut invitée officiellement, en compagnie de plusieurs confrères, à effectuer un voyage de presse à travers le pays. La mission achevée, les autorités organisent, en guise de remerciement, une visite dans un lieu touristique hautement réputé, le village berbérophone de Chénini, proche de Tataouine, au seuil du désert. Fin de la visite. Tous se retrouvent au bazar, véritable paradis de l'artisanat local traditionnel. C'est l'occasion pour chacun de rapporter en France un souvenir de ce site exceptionnel, témoin d'une culture séculaire. Soudain, les confrères d'Isaline sont saisis d'une irrépressible fièvre consumériste, pour le moins frénétique. Notre visiteuse, quant à elle, jette son dévolu sur une simple paire de babouches. Le tout jeune vendeur, qui n'a rien perdu de la scène, lui fit signe de patienter. Il revient lui rendre la monnaie, accompagné de son grand frère, auquel il a d'évidence parlé de cette cliente, pas tout à fait comme les autres. En elle, le grand frère lui aussi remarque un petit quelque chose de différent. Impression réciproque. Regard, sourire. Silence. C'est alors que le jeune homme glisse dans la main d'Isaline une rose des sables. Elle tient juste au cœur de la paume. Dans les jours suivants, Isaline me fait le récit, par téléphone, de ce contact si intense, dans sa brièveté. un moment de grâce inscrit dans la mémoire de notre poétesse, comme un reflet d'éternité. De son récit, j'ai tenté de capter l'essentiel au moyen d'une transposition, celle qu'exige bien souvent la forme poétique. Mon tout premier poème, « La rose » de Chénini, fut composé fin juin de la même année, remanié successivement en 2015, puis en 2019, quant à son vers final. Plusieurs options offertes au traducteur se sont alors révélées nécessaires. Un poème à géométrie variable, en quelque sorte, une chute modifiée en forme d'imprévisible accomplissement. Grégoire Collomb. Voilà, alors j'avais choisi trois roses de Chénini. Il y en a un qui est en arménien, un en français, c'est Philippe Forcioli, et un en polonais, c'est Justine Bax, je ne prononce pas très bien. Voilà, mais il y en a d'autres que Nicolas peut choisir.
Zjawił się róży złoty kwiat, jej antyczny pył, jak mądrości znak, zdobi rękę, co rozpoznać umie duszy ludzki blask. Nie ma granic, gdy spojrzeń dwojga moc na pustyni drży. Uśmiech dwojga serc w ciszę stroi świat. I spotkały się owe światy dwa w szczerej mowie duch, która łączy wciąż tych, co w drodze są. Znów odnajdą się ona, letni zmierzch bizantyjskich miast, on nadziei brzask, a dziecięcy gest ukazał wielkość ludu, który trwa. Zawsze będzie trwać.
Au cœur de la pomme a surgi la rose. De son sable antique, la fleur de sagesse fait briller la main qui sut deviner la beauté d'une âme. Brisant les frontières de regards intenses, dialogue au désert, le sourire des cœurs invite au silence. Ils se sont rejoints, ces deux univers, dans le vrai langage qui unit sans trêve les humains en marche. Ils se reverront, elle automne clair, d'un pays nanti, lui enfant promesse, dont le geste pur a dit la grandeur d'un peuple au futur. déjà millénaire.
La version arménienne est juste au doudouk, mais je crois que sur la version triple album, il y a de l'arménien ancien, de l'arménien moderne et toutes sortes de versions diverses. Grégoire Colomb, pour ceux que ça intéresse, c'est un pseudo et je vais vous avouer une chose, c'est une anagramme parfaite de Grégoire Golon, ce qui est totalement vrai mais ne vous apporte strictement aucune information en plus.
Ah oui, bon, enfin bref, c'est Grégoire Colomb, ouais. Et donc, il y a d'autres, c'est vrai que dans les trois volumes, c'est en streaming, mais il faut aller sur Faubourg du Monde, ou il faut s'amuser à aller sur mon site Théâtre au Vent.
Mais sur n'importe quel moteur de recherche, on tape Rose de Chénini et on tombe tout de suite dessus.
Oui. Ah bah ça va alors, parce qu'au départ, on ne tombait pas dessus. Donc, si on le trouve, tu peux y aller, alors.
Oui, oui.
J'y suis. Quelle version souhaites-tu? Alors là, ça va être...
Alors, je voudrais une version en vietnamien et une version en espagnol.
En russe.
En russe. Non, en fait, le lien, c'est pour... je ne sais pas si c'est pour... comment on appelle ça? Cliquer et pour pouvoir acheter le disque. En fait, c'est ça qu'il y a sur mon site.
Chénini. Giữa lòng bàn tay, một bông hồng xuất hiện. Từ miền cát cổ xưa, đóa hoa của nguồn trí tuệ làm rạng rỡ bàn tay như dự báo vẻ đẹp một tâm hồn. Phá vỡ dậu rào biên giới, mắt trong mắt thiết tha. Cuộc đối thoại ở miền sa mạc. Nụ cười đến từ con tim gọi mời nhau vào tĩnh lặng. Họ đến với nhau hai vũ trụ giao duyên trong ngôn ngữ chân phương của một nguồn sáng hư ảo. Hợp nhất, không ngừng nghỉ, nhân loại đang đồng hành. Họ sẽ gặp lại nhau. Nàng là mùa thu trong sáng của quê hương sung túc. Chàng là người con của kỳ vọng, mang phong thái thuần khiết, thể hiện sự hoành tráng của một dân tộc đang hướng đến tương lai, sẵn sàng vượt qua hàng nghìn năm mai sau.
Évidemment, je vais poser la question à la con. Est-ce que vous pouvez me traduire le texte? Ben oui, puisque c'est le même dans toutes les langues.
Mais peut-être qu'il y a des variantes, des nuances, parce que c'est très difficile de traduire dans une langue étrangère un poème. Hein. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est vrai. Hein. Mm-hmm. Imaginez de traduire peut-être Baudelaire ou même Verlaine. C'est pas forcément. Enfin, de toute façon, justement, l'intérêt c'est justement de communiquer en plusieurs langues. C'est ça l'intérêt du disque, c'est de nous faire voyager. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en streaming? Bah alors, ça, c'est un terme français, hein, je ne sais pas. Et ceux qui n'aiment pas trop les
anglicismes.
Les anglicismes. Alors, qu'est-ce qu'il y a on pourrait écouter Ève Grilliquez, je ne sais pas. Oui, mais elle était décédée, alors je sais, c'est bizarre que... Titre, 38, Ève Grilliquez. Alors, je ne sais pas. Ah, quoique, ça fait longtemps hein, qu'il s'est mis sur ce projet. Hein. C'est depuis 2011. Hein. Elle est décédée en 2017, Ève Grilliquez. Elle a peut-être eu le temps de...
Ah oui, mais alors là... 38 de quel, duquel des trois disques, c'est ça la...
Ah, faut que je trouve. Oui, c'est vrai, oui. 38 de quel disque?
Bah, on va faire un essai, on va bien voir si on reconnaît.
La rose de Chénigny. Au cœur de la paume a surgi la rose. De son sable antique, la fleur de sagesse fait briller la main qui sut deviner la beauté d'une âme. Brisant les frontières de regards intenses, dialogue au désert. Le sourire des cœurs invite au silence. Ils se sont rejoints, ces deux univers, dans le vrai langage qui unit sans trêve les humains en marche. Ils se reverront, elles, automne clair d'un pays nanti, lui, enfant promesse, dont le geste pur a dit la grandeur d'un peuple au futur prêt pour l'infini.
Alors, il y a un truc qu'on peut faire éventuellement. Je mets un morceau au hasard et il faut retrouver qui est l'interprète. Là, je suis incapable de le dire parce que c'est pas marqué.
Là, c'était quoi? Le numéro 38?
38 du volume 3.
Ah, c'est ça. Je sais pas qui c'est qui dit le... Il s'est pas dit, là. C'est bizarre.
Alors, et puis après, il faut essayer de deviner la langue, mais ça va. Ça simplifie les choses.
Celui-là...
Enfin, quoique, non, si je vous en passe... Parce que, je vous l'ai dit, hein, effectivement, il y a de l'arménien oriental et de l'arménien occidental. Il faut s'y retrouver si on rajoute des frontières encore en plus maintenant.
Parce que moi, quand je clique sur les volumes, le problème, c'est que... alors... Poème dit en français, on n'a pas tout de suite le nom de... Ah si, il faut cliquer dessus. Générique de la piste, par exemple. Il faut cliquer sur le... Par exemple, le numéro 13, c'est en français. Comme on veut faire des langues, je vais choisir autre chose. Et là, je suis sur le volume 3. une langue. Alors, il y a le doudouk arménien. Ça...
Ah ben ça, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. C'est, si sur 100 morceaux, on retombe sur le même, le générateur n'est pas très aléatoire, là, Evelyne.
Oui, d'accord. poème dit en géorgien. C'est pas un peu russe, le géorgien ?
Si.
Alors, je vais cliquer dessus, je vais vous dire par qui c'est dit, poème dit en géorgien. Oh là là. Ah, il y a un japonais, tiens. Ah ben voilà. Chenini. Alors, c'est volume 3, le 1, en japonais. L'interprète Mimei Sakamoto.
Ben voilà, c'est ça.
C'est le 1. Volume 3, 1.
Ben voilà, on va. Ben c'est quasiment fini pour aujourd'hui de ce.
Donc, c'est La Rose de Chinini de Grégoire Collomb et Catherine Bédez. C'est la musicienne, Catherine Bédez, la compositrice de la musique. C'est disponible en allant Faubourg des Mondes, le producteur Faubourg des Mondes, ou en tapant sur Internet. En tapant, oui, il paraît qu'il ne faut pas taper, mais en tapant sur Internet La Rose de Chinini. De Grégoire Collomb, Faubourg du Monde, des Mondes. Et vous pouvez, alors, franchement, c'est copieux. Vous pouvez avoir 3 volumes, et les volumes ne sont pas chers. Hein. Un volume, 10 euros, et vous avez au moins 35 titres. Hein.
Oula,
voilà, je vends là. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas très cher.
Non, 35 titres, non, un titre en 35 versions.
Mais oui, mais bon.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans Dessous de scène. On continue les versions, tout le monde en direct pour l'été. Ici, les studios à vous, les studios. Non, c'est dans l'autre sens. Et on se quitte avec le gauchisme à la mode de Cosimon, proposé par Jean-Marie.
Le gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Ah oui, j'ai lu ça dans un journal. C'est offensant, quoique banal, pourtant, quelle à droite méthode. Si vous chantez la liberté, la justice, l'égalité, on vous traite de démagogue. Et dès que l'on vous catalogue, auteur dont il faut se méfier, de vous l'on écrit, c'est commode, avec dédain, avec pitié. Cet auteur connaît son métier, il fait du gauchisme à la mode. Ah, je fais du gauchisme à la mode. Et que fait ce pouvoir d'argent qui prend souci des pauvres gens, mais juste en certaines périodes? camps, pensionnés et retraités de quelques euros sont augmentés. Ce sont leurs voix que l'on racole. Ah, il faut voter dans les écoles. 8 jours plus tard, l'immobilier brandissant les foudres du code les expulse de leur quartier. Dressez constat, monsieur l'huissier. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode si, quand je pense aux objecteurs traités par des malfaiteurs, mon cœur point de s'en accommode, non, non. Et que dire des étudiants que l'on fait chômeurs et mendiants bien avant qu'ils n'aient leur diplôme? Quant au prince de ce royaume, à l'intérieur bien intégré, vais-je lui consacrer une ode quand il traque les immigrés? Non, mon prince, 1000 regrets, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode et l'on me dit manipulé. Et l'on croit pouvoir révéler à quel parti je m'inféode. Allons, messieurs, soyons sérieux. Tout simplement, j'ouvre les yeux. Je suis témoin de mon époque. Le succès présent, je m'en moque. L'histoire d'hier à nos jours fut écrite par des rhapsodes, des rimeurs et des troubadours. Le temps des cerises est bien court. C'était du gauchisme à la mode? C'était du gauchisme à la mode. Merci.
T'as bien capté, Bunois, Tur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Tur Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, Tur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, Bulle Noire, Tur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, Tur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire.
Radio Libertaire sur 89.4.
Lorsque j'ai rencontré Didier Serplet, il y a plus de 20 ans, c'était une période où il se penchait avec grand intérêt sur l'esthétique des plaques d'égout, ce qui a attiré mon attention. Préalablement, j'avais pourtant tenté de décoder l'œuvre de Marcel Duchamp, ou celle de Joseph Beuys, ou encore celle de Wolf Fostel, univers qui ne rentrait pas directement dans ma démarche plastique, mais m'interrogeait culturellement. Par cette coïncidence curieuse et profitable, j'ai pu mieux accéder aux arcanes d'un monde très particulièrement issu du surréalisme que l'on intitule le conceptualisme. De plus, il faut reconnaître que le mystère et l'étrange sont pour moi une source de rêverie et d'inspiration. Alors, un homme qui s'intéresse au trou, à la mort, et qui nourrit une affection particulière pour un lapin solitaire qui loge confortablement dans un studio à Saint-Germain-des-Prés, ne peut que satisfaire ma quête de curiosité. La régularité de nos entretiens m'ont permis de mieux le connaître et percevoir d'où venait et comment se déroulait son travail. Précisons que c'est un marginal élégant, voire même un romantique, qui ne souhaite pas s'intégrer au monde d'aujourd'hui. Détaché de l'univers ordinaire, il s'écrit souvent « J'ai horreur de notre époque ». Alors, il se réfère fréquemment au XIXe siècle, qui lui semble plus proche de ce qui le stimule. C'est un homme cultivé, volontairement prisonnier et protégé par des remparts de livres. La littérature populaire le fait.